Panthéon. Nicolas Jamain.
Il représente pas le football, il est le football.
Pelé va dentro! Gol du Brasil!
Moi je parle d'artiste. Pelé était un garçon qui crée.
Rivelino, direct pra área. No alto Pelé!
Il a marqué le football comme personne d'autre ne l'a marqué.
Je crois que le football a donné à Pelé. Le football me a donné tout.
Il s'est goûté, il s'est Pelé. Il met à deux, il s'est Mané. Il s'est dit zéro, il s'est Premier dans cette tricopieux.
C'est l'histoire d'un footballeur brésilien. C'est l'histoire du footballeur brésilien. C'est l'histoire du football, de la première star mondiale du jeu le plus universel, d'un artiste déroutant, d'un dribbleur génial et d'un buteur record. C'est l'histoire du numéro le plus mythique du football, de l'éternel numéro 10. C'est l'histoire d'Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé. Pelé n'était pas juste un footballeur de génie, c'était aussi l'incarnation de la joie de vivre sur un terrain, du jogo bonito, d'un joueur sans calcul qui a prolongé son enfance le plus longtemps possible. Pelé, c'est à jamais un palmarès unique, auréolé de 3 Coupes du Monde et de plus de 1000 buts. Un champion dont le regard a brillé jusqu'à la fin de sa vie. Elle s'est achevée le 29 décembre 2022, après un long combat contre le cancer. Comment a-t-il construit son mythe? Pourquoi n'a-t-il jamais joué dans un grand club européen? Combien de buts a-t-il réellement marqué? Est-il le plus grand joueur de l'histoire? Stéphane Cohen, bonjour.
Bonjour.
Ancien reporter à TF1, auteur de nombreux documentaires, vous avez écrit la biographie du joueur aux éditions Solar. Vous écoutez Panthéon, un homme, une légende. Voici l'histoire de Pelé, le roi du football. Janvier 2023, Santos, État de Sao Paulo, Brésil. Un camion de pompiers fend la foule dans les rues de la ville. Sur son toit, un cercueil noir, recouvert par deux drapeaux. Le premier, jaune, bleu et vert, celui du Brésil. Le deuxième, blanc et noir, celui du Santos Football Club. Deux bannières symboliques qui racontent une vie, celle de l'homme pour qui près de 200 000 personnes ont décidé, ce mardi matin, de descendre dans la rue pour un dernier hommage.
Il y a un sentiment de vide, mais aussi de l'émerveillement pour avoir vu tout ce qu'on a vu. Merci au roi Pelé. La ville est consternée et heureuse à la fois parce qu'il a rendu la ville, le pays, plus grand encore. Il a porté le Santos à travers le monde. Merci à tous ceux qui sont venus des quatre coins du monde. On tire notre chapeau au roi du football. Pelé est éternel, Pelé n'est pas mort, Pelé vit encore. Merci beaucoup. Tous ces applaudissements ne suffiront pas pour traduire notre gratitude. Merci infiniment. Un bisou de la ville de Santos pour le monde. Pelé est inégalable.
Un beijo da cidade de Santos para o mundo. Pelé é ímpar, é o rei.
Le camion progresse au rythme des chants et des cris. Puis il marque un arrêt devant une maison, à la façade beige. À l'intérieur vit toujours Dona Celeste, brésilienne, tout juste centenaire. Elle est la mère de l'homme que tout un pays pleure depuis le 29 décembre 2022, Edson Arantes do Nascimento, dit Pelé. 5 jours plus tôt, le roi du football s'en est allé. Après avoir lutté en vain contre le cancer, il avait 82 ans et 7 enfants. La vie d'Edson Arantes do Nascimento débute le 23 octobre 1940 dans une petite ville de 70 000 habitants appelée Três Corações. Nous sommes à 5 heures de route de Sao Paulo, dans le cœur du Brésil, dans l'état du Minas Gerais, les mines générales. C'est une terre d'adoption d'esclaves venus d'Afrique de l'Ouest jusqu'au XVIIIe siècle et Pelé en est un descendant, Stéphane.
Oui, tout à fait. Il est issu, c'est sans doute la troisième, quatrième génération de ces esclaves qui sont arrivés principalement de l'Afrique subsaharienne. Son arrière-grand-mère était une esclave elle-même. Mais ces millions de personnes qui ont été déportées l'ont été en nombre beaucoup plus qu'aux États-Unis d'Amérique. La société brésilienne est très cosmopolite et on a l'impression que quelque part, elle s'est bâtie sur les différentes ethnies. Mais il ne faut pas oublier que les Noirs, les gens de couleur sont principalement arrivés au XVIIe siècle en tant qu'esclaves d'Afrique.
Sa mère, Donna Céleste, n'est pas majeure quand elle accouche de Pelé, le premier de ses trois enfants. Son père, João Ramos de Nascimento, dit « Dondinho », a 22 ans. Il partage sa vie entre les petits boulots, balayeur, livreur de lait, veilleur de nuit et de football. Nous sommes en 1940 et bien sûr, Pelé n'est pas encore Pelé. Son prénom, c'est Edson, auquel il manque une voyelle, un « i », que l'on trouve pourtant sur son acte de naissance. Il s'appelle en fait Edison.
Il s'appelle Edison pour une raison très simple, c'est que Thomas Edison étant l'inventeur de l'électricité et l'électricité étant à peine arrivée à Tres Corazones, on décide, en hommage à ce scientifique, de nommer le petit Edson, non pas Edison, mais bien Edson, parce que ça sonne un peu mieux. Voilà. Edison, en fait, c'est une erreur de l'employé de la mairie qui considère que sûrement les parents ont dû faire une faute au moment de le déclarer et rectifie de lui-même. Mais en fait, il s'agit bien du petit Edison qui s'appelle Edson en référence au vrai Thomas Edison.
Il devient très vite Dico, son premier surnom donné par son oncle Jorge, qui vit avec la famille. Dico, traduction, fils de guerrier. À quoi ressemble l'enfance du petit Dico? Alors, il ne vit pas dans la misère, mais loin du confort également quand même.
Elle est très heureuse et toute sa vie, il portera cette joie, ce bonheur, cette continuité de l'enfance. Et quant à sa jeunesse, elle est très heureuse parce qu'elle se passe essentiellement dans la rue. On parle d'une rue qui n'était pas la même qu'aujourd'hui. Dans le quartier où il vivait, dans cette petite maison où ils étaient à plusieurs, hein, plusieurs générations, les grands-parents, les parents. Et il se trouve que cette petite maison a été reconstruite à l'identique, à quelques dizaines ou centaines de mètres de l'endroit où elle existait réellement. C'est devenu une espèce de mausolée, une espèce de sanctuaire, de musée dans le, que l'on peut visiter, qui est extraordinaire et qui montre effectivement cette espèce de confort limité dans lequel a vécu cette famille. C'est-à-dire qu'elle avait un toit à une époque où tout le monde n'en avait pas forcément. C'était une époque où ils pouvaient manger, il y avait une cuisine, un salon, des chambres qui séparaient les enfants des parents. Donc quelque part, un confort relatif vu d'aujourd'hui, mais réel à l'époque.
Son père, João Ramos, c'est donc un footballeur, un homme beau, grand, longiligne, qui vendait ses services de ville en ville, de club en club, pour une carrière semi-professionnelle qui ne permet pas de faire vivre sa famille. Il aurait pourtant pu, Dondinho, prétendre à une carrière de footballeur.
Ah mais Dondinho a clairement sa place, sans doute avec un peu plus de chance qu'il n'en a eu dans l'équipe du Brésil. Dondinho était bon au point de faire un essai dans le club de l'Atlético Mineiro, qui est un des clubs majeurs de Belo Horizonte avec le Cruzeiro. Malheureusement, il est mis sur la feuille de match le lendemain pour un match d'essai qui est sans doute l'entrée pour lui dans un monde meilleur, un monde où il va pouvoir faire vivre sa famille, un monde où il va enfin pouvoir devenir le footballeur professionnel qu'il désire et qu'il rêve d'être. Mais au cours de ce match, il est victime d'un tacle comme il y en avait beaucoup à l'époque et son genou craque. Et il va traîner cette blessure pendant toutes les années qui vont suivre.
En 1944, Dondinho intègre le club de Vasco de São Lourenço à Lorena. Le petit Edson accompagne son père à l'entraînement. Et très vite, il pose son regard sur le gardien de l'équipe, un certain Joselino da Conceição Faustino, surnommé Bilé. Le gardien fascine le garçon.
Dico, qui admirait ce fameux Bilé, n'arrêtait pas de l'appeler Bilé, 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 bravo Bilé, tu es le meilleur Bilé, il sautait de joie. Au fur et à mesure, ses camarades de classe ont commencé à l'appeler Bilé parce que lui-même n'arrêtait pas de parler de ce gardien qui avait énormément de talent, qui le fascinait. Et Bilé est devenu Bilé, Bilé est devenu Pelé. Et il a gardé pour le restant de sa vie ce surnom qu'il n'a pas forcément apprécié au début, mais qui est constitutif de l'homme qu'il aura été tout le reste de sa vie.
Et j'ai appris comment faire pour m'entraîner. Avec les fruits, les verres pour les tirs, les murs pour la technique.
Extrait du film Pelé, la naissance d'une légende, sorti en 2016. On y voit et entend Dondinho qui apprend à son fils aussi à jongler et tirer avec des fruits. C'est lui d'ailleurs qui, une fois sa modeste carrière de footballeur terminée en 1952, décide de lancer celle de son fils. Il en fait en grande partie le joueur qu'il sera plus tard.
On est clairement à l'image de nombreux champions de ces dernières décennies dans le transfert du papa à l'enfant. Le père transfère sur son propre enfant les désirs ou les rêves que lui-même n'a pas pu accomplir. Dondinho n'a pas été le grand joueur qu'il aurait rêvé d'être, et bien son fils le deviendra à sa place. Il se trouve que pour Pelé, je pense que la réussite est née essentiellement du fait que non seulement il aimait le football, mais en plus de ça, il était admiratif et amoureux de son papa.
My father was my teacher. Mon père était mon professeur quand j'étais jeune. Il me donnait plein de consignes, de conseils. Il m'apprenait plein de choses. Il m'encourageait.
Nous sommes désormais le 16 juillet 1950. Une date marquante pour tous les Brésiliens. Pour Pelé aussi. Il a 9 ans et avec sa famille, dans sa maison à Bauru, il suit à la radio, faute de télévision, la finale de la Coupe du Monde, Brésil-Uruguay. Elle se joue au stade du Maracana, devant 200 000 spectateurs. C'est un record d'affluence pour un match de foot. C'est un grand jour dans l'histoire du Brésil, dans l'histoire d'un peuple qui a l'espoir, enfin, de devenir une grande nation mondiale. Et ce que l'écrivain brésilien Nelson Rodrigues écrivait, appelé le complexe du chien bâtard, autrement dit, de ne plus être ce pays et ce peuple qui se rabaissait toujours et glorifiait les autres. Il est 15h à Rio. Au 35 de la rue Rubens Arruda à Bauru, la famille de Nascimento est réunie autour du vieux poste de radio familial. Don Dinho a invité ses coéquipiers, Dico est collé à son père, quand retentit l'hymne brésilien en direct à la Radio Nationale. L'excitation est à son paroxysme au Maracana. Le Brésil a une meilleure équipe que l'Uruguay. À la 47e minute, la Seleção marque en premier. Le stade explose, mais 20 minutes plus tard, les Uruguayens égalisent. Puis à la 79e minute de jeu, le Maracana se glace. Djidja, attaquant de la Céleste, marque à nouveau.
Ainda dentro do campo uruguaio, para Guidia. Guidia devolveu a Rúlio Pérez, que dá em profundidade ao ponteiro direito. Corre, Guidia. Aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol do Uruguai, Guidia. Segundo gol do Uruguai. 2-1 ganha o Uruguai.
Le Brésil est battu par l'Uruguay. Le Maracana est plongé dans une ambiance de cimetière. On le voit sur les images, les Uruguayens osent à peine célébrer leur victoire. C'est un drame national d'une violence inouïe. C'est le fameux Maracanazo. 64 ans après, en 2014, Pelé en parlait encore.
Si j'étais Dieu, je donnerais au Brésil la chance de rejouer face à l'Uruguay. Pour que le Brésil ait l'opportunité de prendre sa revanche contre l'Uruguay.
Qui gagnerait ?
Une vague record de suicides et de crises cardiaques frappe le Brésil. Tout pays a son irrémédiable catastrophe nationale, son Hiroshima. Notre Hiroshima est la défaite contre l'Uruguay, écrira Nelson Rodrigues. Et les conséquences sont lourdes. La défaite ravive un racisme latent au Brésil. Racisme contre les populations noires. Pelé est terrorisé par la violence des réactions contre des hommes qui lui ressemblent, comme le gardien Barbosa, désigné coupable numéro 1 de la défaite. Et à partir de ce 16 juillet 1950, le Brésil ne jouera plus jamais en blanc. Pelé ne jouera jamais en blanc.
Je ne savais pas quoi dire à mon père. Il avait beaucoup pleuré. Je lui ai donc lancé « Écoute, ne t'inquiète pas, ne sois pas triste. Je te gagnerai une Coupe du Monde. »
Nous sommes désormais en 1953. Pelé a 13 ans et il va vivre sa première grande émotion de footballeur. Le maire de la ville de Bauru organise un tournoi pour les jeunes du quartier. Dico et sa bande de copains montent une équipe surnommée l'Ameriquinha. Et c'est la première révélation aux yeux du public.
C'est un phénomène de foire. Déjà au Brésil, les gens se rendent compte qu'il y a quelque chose de spécial avec ce garçon haut comme trois pommes qui se balade, qui fait ce qu'il veut avec le ballon, qui se joue de ses adversaires tout en les respectant. Et sur le terrain, il fait des miracles à tel point que dans ces contrées où l'argent n'est pas dans les poches de tout le monde, les gens lui lancent des pièces, des tribunes pour honorer, pour remercier, féliciter ses prestations sur le terrain.
Et c'est quelques mois plus tard, en 1954, qu'il se lie officiellement au football. Il signe sa première licence pour jouer dans l'équipe de jeunes du Bauru Athletic Club. La formation s'appelle les Baquinhos et elle est entraînée par un certain Valdemar de Brito, c'est une rencontre décisive dans la vie de Pelé. Qui est-il ?
Alors, Valdemar de Brito, c'est un homme imposant qui est bien connu dans le milieu du football brésilien puisqu'il a fait partie de la délégation de la Coupe du Monde 1934. C'est un attaquant réputé pour avoir été un grand buteur et qui se reconvertit en entraîneur et en détecteur de talent. On est au Minas Gerais, on sait très bien que le contingent des footballeurs qui jouent dans les grands clubs du pays viennent essentiellement des villes. Il se trouve que Valdemar de Brito n'a vraisemblablement pas eu la possibilité d'entraîner un club ou les jeunes d'un club réputé comme à Rio ou à São Paulo. Mais en arrivant à Bauru, il va trouver de l'or.
La suite va lui donner raison. Dès sa première année, Pelé accumule les buts. Son équipe enchaîne les victoires par au moins 4 buts d'écart. Il vient d'avoir 15 ans. Les premiers clubs professionnels s'intéressent à cet adolescent surclassé, au physique encore frêle, au visage d'enfant et aux oreilles décollées. Valdemar de Brito estime que l'adolescent est prêt, alors il le propose à plusieurs clubs, dont l'un se trouve à 300 km au sud de Bauru, au bord de l'océan. Le Santos Football Club, c'est le premier grand voyage de Pelé.
Mais só que quand nous chegamos em Santos,
quand on est arrivé à Santos, je voulais absolument voir la mer. Mais j'avais oublié que la mer était salée. À Bauru, nous n'avions que des rivières. J'ai dit aux autres joueurs de Santos, allons jouer à la plage. La balle est sortie et je suis parti la chercher. Et j'ai mis de l'eau de mer dans ma bouche pour vérifier si elle était si salée que ça. Les autres joueurs m'ont demandé pourquoi j'avais fait ça. Je leur ai simplement répondu que j'avais la bouche sèche. Vous savez, on n'avait que des rivières à Bauru.
Il rejoint donc Santos, un club sans trophée depuis 20 ans et qui ne le sait pas encore. Va devenir, grâce à sa jeune recrue, l'un des plus grands clubs sud-américains de l'histoire. Mais avant cela, les premiers jours sont compliqués pour l'adolescent. Il vit mal la séparation avec sa famille.
Il le vit très très mal, c'est horrible. Il ne veut pas y aller, clairement. Il a 15 ans, il prend le train avec son papa, avec Valdemar de Brito. Valdemar de Brito qui, entre parenthèses, est allé voir Ati Jorge Koury, le président du Santos Football Club, pour lui dire « Je vais vous faire signer le futur meilleur joueur du monde. » Vraiment, textuellement. Il lui dit « Je vais aller au Minas Gerais, j'ai entraîné le futur meilleur joueur du monde. » « Ah bon ?» dit Koury. « Bon bah, emmenez-moi la pépite. » La pépite arrive au cours d'un match de Santos, arrive dans le vestiaire après une victoire. Sachez que Santos, cette année-là, a remporté son premier championnat Carioca depuis des années. Donc, c'est déjà une équipe bien implantée. Et le jeune Pelé arrive, puis il s'ennuie. C'est horrible parce que lui, le foot, c'est la rue, c'est les copains, c'est les amis. C'est pas ce monde entouré de buildings, ses entraînements avec des joueurs beaucoup plus âgés que lui, plus physiques. Lui, c'est un petit gringalet. Hein. On n'arrête pas de lui dire, l'entraîneur Lula lui dit « Mais mange du poulet, mange des trucs, fait, grossis, prends des cuisses. » Et un jour, il décide de s'en aller. Il dit « C'est pas pour moi, cette vie-là. » Donc, il décide de quitter le centre dans lequel il était hébergé et donc de fuir, de rentrer à Bauru et de vivre sa vie d'enfant, d'insouciance avec son papa et sa maman. Et là, à la sortie, il est arrêté par un garçon qui s'appelle Sabuzinho. Il lui dit « Non, mais qu'est-ce que tu vas faire ?» Pelé lui répond « Non, mais j'ai le droit, on m'a dit que j'avais le droit de sortir, etc. » En fait, il avait son baluchon sur le dos, il s'apprêtait vraiment à repartir pour Bauru. Et Sabuzinho l'en a empêché, et ce faisant, il a sans doute sauvé une grande partie, voire toute la carrière de Pelé.
Le spleen de l'adolescent n'empêche pas son ascension sur le terrain. Il a 15 ans, mais il s'entraîne déjà avec les pros. Fait même une première apparition en match amical au cours duquel il inscrit 4 des 6 buts de l'équipe. Très vite, on lui demande de paraffer un premier contrat professionnel. Le 8 avril 1956. Et 6 mois plus tard, alors qu'il n'a pas encore 16 ans, Pelé marque le premier but de sa carrière en compétition officielle. Le 7 septembre, jour de fête nationale, il affronte les Corinthians. Et il y a l'histoire de ce gardien des Corinthians, il s'appelle Zaluar.
Ce ne sont pas les Corinthians que l'on connaît, ce n'est pas la grande équipe des Corinthians. C'est un petit Corinthians qui appartient à la ville de Santo André. Et Zaluar, c'est quelqu'un que moi je porte dans mon cœur, parce que quand on aime le sport, on aime l'affrontement, mais on aime aussi la sportivité. Et il va retourner à son avantage le fait d'avoir été le premier gardien à avoir encaissé un but de Pelé dans un match officiel, il va le mettre sur sa carte de visite. Et c'est comme ça que ce gardien connaîtra une forme de reconnaissance dans le pays. Et il y en a un autre qui doit beaucoup à la carrière naissante de Pelé, c'est Vasconcelos. Alors lui, pour d'autres raisons. C'est-à-dire que c'était l'avant-titulaire dont Pelé va prendre la place. par accident. Vasconcelo se fait littéralement briser la jambe au cours d'un match à Villa Belmiro, qui est le stade de Santos. Sa carrière n'est pas terminée, mais au même titre que Don Digno, il ne reviendra jamais. Il ne récupérera jamais l'intégralité de ses capacités physiques. De ce fait, Pelé va s'imposer très rapidement à sa place.
Personne n'imagine encore que ce footballeur, qui est encore un gamin, deviendra plus tard le meilleur buteur de tous les temps. Et encore moins que 2 ans après, il régnera sur le monde. La Coupe du Monde 1958, c'est l'histoire de la deuxième partie de Panthéon, Pelé, le roi du jeu. Trovador no fim da tarde, dedilhando a viola, passarinho gorjeando, anunciando o luar, e o fogão a lenha pra mãezinha cozinhar.